Les nuits de France Culture.
Dans la longue histoire de l'égyptologie française, le nom de Dominique Vivant-Denon est peut-être moins familier que celui de Jean-François Champollion, qui déchiffra les hiéroglyphes grâce à la pierre de Rosette. Denon est pourtant loin d'être un inconnu. Une aile du musée du Louvre porte aujourd'hui son nom, un hommage bien naturel à celui qui en fut le premier directeur en 1802. Quelques années plus tôt, en 1798, Denon avait fait partie de l'expédition de Bonaparte en Égypte, l'Égypte qui était pour lui un vieux rêve. Son récit de cette expédition, intitulé « Voyage dans la Basse et la Haute Égypte », fut un succès d'édition qui contribua au développement des études de l'Égypte ancienne en France. Il faut préciser que cette aventure est tardive dans la vie de Vivant-Denon. Lorsqu'il s'embarque avec le futur empereur, il a déjà plus de 50 ans et une vie bien remplie derrière lui. Une vie dédiée aux arts, au savoir, au voyage, à la découverte, mais aussi aux mondanités et aux secrets. Une vie que cette émission vous propose de découvrir ou de redécouvrir. Voici donc Une vie, une œuvre, Dominique Vivant-Denon, le mal connu, première diffusion de cette émission sur France Culture le 16 avril 1998.
Une vie, une œuvre, Dominique Vivant-Denon, le mal connu, une émission de Paul Chavas, avec la participation de Marianne Dupuis, Pierre Lelièvre, Chantal Orgogozo, Martin Reed, Pierre Rosenberg, Philippe Solers.
Je vous ai voué mon existence, sire. Tout ce qui dépendra de mes seules facultés vous appartiendra jusqu'à mon dernier soupir. Ce n'est donc pas de l'oisiveté que je sollicite, mais de ne plus porter le titre d'une place qui n'existe déjà plus et progressivement est arrivée à celle d'un premier commis. Votre Majesté voudra bien me permettre de lui faire observer qu'ayant à 16 ans exercé à la cour la place de gentilhomme, qu'ayant été employé dans des missions honorables en Russie et en Italie, si, pour mon plaisir, j'ai cultivé les arts avec quelque succès, si en accompagnant votre majesté, j'ai augmenté mes connaissances, je n'ai pas dû me promettre que ce serait pour arriver dans ma vieillesse à n'être considéré que comme un artiste ou devenir un chef de bureau. Dominique Vivant-Denon.
Voilà en quels termes Dominique Vivant-Denon, baron d'Empire et directeur du musée central des arts, s'adresse à Napoléon, à l'empereur. Et là, on entre d'emblée dans une période forte de sa vie, le musée du Louvre, alourdi de charges qui faisaient de Vivant-Denon le ministre des arts de Napoléon. Le parcours, il est déjà esquissé par son héros, mais glissons encore quelques dates clés. Naissance à Chalon-sur-Saône, près de Gevrey-Chambertin, en 1747. Paris, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, il a alors 17 ans. 1771, gentilhomme d'ambassade. 1785, fin de ses activités de diplomatie. En 1788, il s'installe à Venise, d'où il sera expulsé 5 ans plus tard. Révolution à Paris. 1798, départ vers l'Égypte avec les troupes du général Bonaparte. Et l'année 1802 voit à la fois la publication du « Voyage en Basse et Haute Égypte » pendant les campagnes du général Bonaparte et sa nomination à la tête du musée central des arts, qui est aujourd'hui le musée du Louvre, ce qui entraîne maintes missions à travers l'Europe. Auparavant, Denon avait publié des relations de voyage en Sicile, à Malte, dans le royaume de Naples. on a oublié, et déjà à l'époque, une méchante pièce de jeunesse intitulée « Julie ou le bon père ». Mais demeure le fameux conte libertin « Point de lendemain ». Enfin, viennent les 10 dernières années que Vivandenon a consacrées à sa collection, bien sûr, et à la vie de société. Et Dominique Vivandenon meurt à Paris, quai Voltaire, en 1825. Martine Reed.
C'était un bourguignon, donc il est né en 1747 à Chalon-sur-Saône. Il monte à Paris très jeune, jusque-là l'itinéraire n'a rien d'étonnant. Il est nommé à un moment donné directeur du cabinet des médailles et des pierres gravées de Madame de Pompadour, qui est alors décédée. Enfin, il gère cette collection. Il espère ensuite occuper différents postes, c'est-à-dire faire une carrière de diplomate. On le voit en 1772 en Russie, en 1774 à Stockholm, en 1775 en Suisse, où se passe la brève correspondance avec Voltaire et la dispute qui s'ensuit. En 1777, il est à Naples et se fera renvoyer pour avoir, ressemble-t-il, remis un rapport absolument dévastateur sur les faits et gestes de la cour de Naples. Et de retour en France, alors, il sera reçu à l'Académie comme graveur en 1787 et sera de 1788 à 1793 à Venise.
Il sera et ça, alors, il y va de son propre chef.
Il y va de son propre chef, c'est-à-dire qu'il semble bien qu'il n'y ait pas été officiellement délégué. Vous savez qu'il y a eu des questions d'espionnage aussi.
On en a beaucoup parlé,
on ne sait toujours pas, et la correspondance ne permet pas de le savoir, pour les raisons pour lesquelles, au juste, il est expulsé de Venise officiellement pour activité d'espionnage.
Philippe Solers.
Je crois qu'il est essentiel de comprendre que très tôt, dès l'âge de 22 ans, Denon est rentré dans l'intimité de Louis XV. On raconte à ce moment-là des anecdotes qui, à mon avis, n'ont pas grand intérêt parce qu'elles sont dissimulatrices. Il se serait placé sur le parcours du roi et puis il lui aurait demandé la permission de le contempler de plus près, etc. Vous savez, ce sont des légendes.
Oui, comme plus tard le verre d'orangeade alors, à Napoléon.
Voilà. Chaque fois qu'il y a quelque chose d'un peu étrange, il y a une anecdote pour le dissimuler. Aussi bien dans le cas de Louis XV que dans le cas de Napoléon. Car, voilà le fond du problème, c'est un homme du secret. Eh bien, à 22 ans, les jeunes gens doués, beaux parleurs, intelligents, capables de jouer un rôle diplomatique, entraient dans ce qu'on appelle le cabinet secret. Le cabinet secret du roi, c'est donc de l'intrigue diplomatique. Et par conséquent, Denon, là, va être protégé, envoyé en mission, très vite, à Saint-Pétersbourg, c'est-à-dire pas n'importe où, à un moment très précis de la diplomatie française, auprès de Catherine II. D'ailleurs, dans mon livre, j'insiste sur le fait qu'il a pu, il a dû y rencontrer Diderot, qui lui-même a servi, vous savez, de passeur pour l'espionnage français en Russie. On va le retrouver, comme par hasard après, à Naples, dans une fonction diplomatique. Mais vous savez ce que ça veut dire, diplomate. Ça veut dire aussi qu'on étudie les dessous des cartes. Lorsqu'il est à Naples et qu'il envoie des lettres extrêmement sévères sur la cour de Naples, c'est-à-dire sur la sœur de Marie-Antoinette, comme Marie-Antoinette est à la cour et qu'elle lit les dépêches diplomatiques, il va se faire saquer. Ce qui explique qu'ensuite, ayant pris sa retraite à Venise, où il est en position de couverture de professeur de dessin, mais en fréquentant quand même, on le voit, un certain nombre d'ambassades, et donc recevant probablement des nouvelles de France au moment de la Révolution, il est interrogé par l'Inquisition de Venise, et on voit très bien qu'il est expulsé, etc. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il rentre de nouveau, de façon secrète, à Paris, sous la terreur, alors qu'il aurait pu y passer, puisqu'il était sur la liste des émigrés, et que grâce à David, il a cette rencontre avec Robespierre si énigmatique une nuit, etc. etc., etc. Toute la vie de Denon est celle d'un agent du secret.
Été 1775, vivant Denon est à Genève, peut-être en mission auprès des cantons suisses. À Ferney, tout près de là, réside Voltaire.
À Genève, le 3 juillet 1775. Monsieur, j'ai un désir infini de vous rendre mon hommage. Vous pouvez être malade, et c'est ce que je crains. Je sens aussi que souvent il faut que vous vouliez l'être, et c'est ce que je ne veux pas dans ce moment-ci. Je suis gentilhomme ordinaire du roi, et vous savez mieux que personne qu'on ne nous refuse jamais la porte. Je réclame donc tout privilège pour faire ouvrir les battants. J'étais, l'année dernière, à Pétersbourg. J'habite ordinairement Paris et je viens de parcourir les 13 cantons dont vous voyez que j'ai pris la franche liberté. Si avec cela vous pouvez trouver en moi quelque chose qui vous dédommage des instants que je vous demande, alors mon plaisir sera sans reproche et deviendra parfait. Et puisque j'ai trouvé un moyen d'être votre camarade, je me contenterai de vous assurer que vous n'en avez point qui vous soit plus parfaitement dévoué, monsieur, que votre très humble et très obéissant serviteur. Denon.
Ferney, le 3 juillet 1775. Monsieur mon respectable camarade, non seulement je peux être malade, mais je le suis, et depuis environ 81 ans. Mais mort ou vif, votre lettre me donne un extrême désir de profiter de vos bontés. Je ne dîne point. Je soupe un peu. Je vous attends donc à souper dans ma caverne. Ma nièce, qui vous aurait fait les honneurs, se porte aussi mal que moi. Venez avec beaucoup d'indulgence pour nous deux. Je vous attends avec tous les sentiments que vous m'inspirez. Votre très humble et très obéissant serviteur, Voltaire.
Denon est alors tout jeune, Voltaire a plus de 80 ans, il est en fin de vie, et au fond, Denon s'introduit dans l'intérieur de Voltaire, dans l'espoir de pouvoir ramener, ce qui est quand même une idée des admirateurs de Voltaire, d'avoir de Voltaire quelque chose, une lettre, un portrait, et il fait circuler très rapidement une gravure, le déjeuner à Ferney. Mais il faut savoir qu'il n'est pas le seul à faire ça à l'époque. Je pense qu'il y a eu, si je me souviens bien, il y a un petit recueil de lettres à Voltaire, recueil intéressant qui montre à quel point Voltaire fascine ses contemporains. Chacun essaie de se faire recevoir à Ferney et il va d'un exercice de plume plus ou moins rusé pour précisément susciter un instant l'attention du grand homme.
Quand on lit ces récits de voyages en Sicile, à Naples, et bien sûr après en Égypte, à quoi s'intéressait-il ?
On a, pour ce qui concerne le voyage en Sicile, on a découvert il y a quelque temps un petit carnet de voyage de l'abbé Buisson qui accompagnait Vivant Denon en Sicile. Donc il s'était rendu en Sicile en 1778, ceci pour situer l'événement. Il est encore très jeune et l'abbé Buisson fait surtout état de la remarquable curiosité de celui qui est encore son élève, puisque l'abbé Buisson avait servi de précepteur à Vivant Denon quand il était encore à Chalon-sur-Saône.
L'abbé Buisson était bourguignon, lui aussi, ou tout au moins venait de Bourgogne, où la famille de Vivant Denon avait un fameux clos qui a beaucoup servi dans la vie de Vivant Denon à rendre ses jours plus faciles. Le Gevrey Chambertin était très apprécié.
Oui.
Et il s'en faisait envoyer même à Venise.
Il s'en faisait envoyer à Venise. Il semble avoir fait commerce aussi quelque temps de ce vin avant que la Révolution ne complique les affaires et ne mette ses biens sous ses castres, ce qui a aussi été avancé comme raison pour laquelle il avait décidé ou choisi de rentrer en France. Donc l'abbé Buisson, dans ses carnets, parle beaucoup de sa curiosité pour les arts, principalement. Il est évident que le voyage est ponctué d'anecdotes, des accidents du déplacement. Mais ce que fait apparaître justement l'abbé Buisson, c'est de nouveau, au niveau du caractère, et au fond très jeune, une extraordinaire curiosité, dirait-on, tous azimuts, pour l'art tel qu'il se manifeste en Sicile de diverses manières. Et on voit précisément Denon très soucieux de rencontrer déjà des collectionneurs, que ce soit des collectionneurs de peinture, que d'objets anciens, que de statuaires antiques, etc.
D'ailleurs, à travers toute sa vie, il a collectionné pour lui.
Oui, je pense que c'est peut-être au fond, au bout du compte, l'image, en tout cas avec les quelques connaissances que j'ai, l'image qui semble dominante. Je le disais tout à l'heure, enfin, cette passion pour l'art et ce goût de la collection qu'il portera évidemment dans un deuxième temps au niveau de l'État, connexionnera pour l'État, ce qui apparaît bien évidemment aussi dans ses lettres, aussitôt qu'il est nommé directeur de ce qui est à ce moment-là le musée du Louvre, qu'il fera nommer musée Napoléon en 1803, mais dès 1802, au fond, on lui permet de vivre la vie du grand collectionneur, mais au niveau de l'État. Et d'ailleurs, Denon était très conscient de cela et a souvent, plusieurs fois dans la correspondance, cette expression du Louvre comme le monument des monuments. Je pense que c'est une très belle expression qui montre à quel point, pour lui, pouvoir rassembler les chefs-d'œuvre réquisitionnés aux quatre coins de l'Europe est d'abord un geste de grand collectionneur qui a l'immense jubilation de voir chez lui tous ces chefs-d'œuvre rassemblés.
Denon se présente déjà comme un collectionneur privé.
Pierre Lelièvre.
Il s'intéresse au pays qu'il visite. Au cours de son voyage en Calabre et en Sicile, il a déjà amorcé cette collection qui est extrêmement variée et qui comporte à la fois des objets typiques et caractéristiques de la vie des gens dans le pays qu'il visite, de la vie des paysans comme de la vie des hommes des villes, mais Denon est surtout un homme, un urbain. Et il est curieux de tous les modes d'existence, aussi bien des habitudes alimentaires des pays qu'il visite que des relations sociales entre les diverses couches de ce qui compose la société.
Donc on est assez étonné quand on considère ce personnage-là, et puis qu'on le voit tout d'un coup partir avec les armées de Bonaparte pour la campagne d'Égypte. Il a quand même 51 ans à ce moment-là.
Oui, mais alors, un instant, parlons de sa santé est excellente. C'est un homme qui, disons, ou nous dirions aujourd'hui, qui a fait du sport. C'est un homme qui est habitué à toutes les conditions, même difficiles, d'un voyage dans un pays relativement peu civilisé, surtout...
il a connu l'inconfort au cours de ses voyages en Italie.
Oui, bien
Sicile,
sûr.
Sicile, Malte, etc.
Et Denon est un homme qui est habitué à vivre à la dure, aussi bien que dans les raffinements d'une société très policée. C'est cette disponibilité qui me paraît être un des traits caractéristiques de sa personnalité.
Thank you.
Julien Dupuy, on parle beaucoup de Dominique Vivant Denon pour son rôle dans l'égyptologie, bien sûr, au musée qui est aujourd'hui le musée du Louvre. Mais il y a un personnage peut-être moins connu des non-initiés, c'est l'artiste.
En fait, si on connaît mal l'artiste, c'est que ce n'est pas un très grand artiste, mais c'est un artiste intéressant, plutôt amusant. Il commence sa carrière plutôt en voulant s'affirmer comme écrivain, mais en fait, c'est quelqu'un qui a toujours dessiné. C'est un peu un maniaque du portrait. Il faisait systématiquement les portraits de tous les gens qu'il rencontrait, et ça, tout au long de sa carrière. Il est reçu à l'Académie comme graveur. Et puis, en 1809, il fait les premiers essais de lithographie dans la presse des frères Senefelder à Munich. Donc il s'intéresse beaucoup aux techniques, en fait. Et les épreuves que conserve la Bibliothèque royale, enfin la Bibliothèque nationale maintenant, montrent qu'il essaie de faire des pastiches à la manière de Dürer, jouant même sur le monogramme de Dürer, Albrecht Dürer, qui renversait et fait Vivant Denon, VD. Il fait aussi peut-être des faux, qu'il fait d'après Rembrandt, qu'il essaie de vendre comme ça quand il est à Venise, comme des authentiques Rembrandt. Et tout ça à partir de sa propre collection qu'il a constituée. Et puis la lithographie, c'est sans doute ce qui va l'occuper le plus quand il est à la retraite, de 1815 à sa mort, où là, il représente toutes les dames qui défilent chez lui, qui viennent voir sa collection, qui apprennent peut-être aussi la technique de la gravure auprès de lui. Donc voilà un petit peu l'échantillonnage de sa manière de procéder.
Aucun particulier ne possède à Paris une collection d'objets relatifs aux arts et aux antiquités aussi curieuse, aussi variée et aussi singulière que celle que renferme l'hôtel du Baron Denon. Je trouvais dans cette collection quelques objets qui échappent à toute classification. Un petit pied humain parfaitement conservé, ce qui peut-être faisait autrefois partie des charmes de quelque aimable Bérénice, de quelque belle Cléopâtre. 2000 ans au moins se sont écoulés depuis qu'il reposait sur le tapis d'un divan ou qu'il parcourait légèrement les bosquets d'orangers du Delta. C'est le joli petit pied dont Monsieur Denon fait la description dans ses voyages, comme étant sans doute, d'après son élégance, le pied d'une jeune femme, d'une princesse, d'un être charmant dont la chaussure n'avait jamais altéré les formes et dont les formes étaient parfaites. Lady Morgan, 1816.
Tout ce qui, au fond, a trait à l'art l'intéresse immédiatement, il le dit et le répète. Et je pense que, d'ailleurs, c'est sans doute ce qui émerge de manière la plus évidente quand on lit les lettres, c'est la passion pour l'art. Je pense que l'homme de lettres est, chez Denon, quelque chose de plus fuyant, de plus fugace, quasiment d'accidentel, alors qu'en revanche, on a, c'est l'évidence, une immense passion pour l'art, manifestée de multiples manières, aussi et sans doute... En premier, parce que Denon, comme graveur, n'a pas fait autre chose pendant de longues années que de contempler des chefs-d'œuvre.
Oui, dès qu'il n'avait pas une occupation officielle, voilà. Il se consacrait au dessin et à la gravure.
Tout à fait. Il le dit au moment où, au Louvre, donc rentré à Paris, chassé de Venise et rentré à Paris, il va demander au Louvre une place très particulière près d'une fenêtre de façon à pouvoir copier tel et tel chef-d'œuvre. Et il dit qu'effectivement, à l'époque, sous le coup de la séparation avec Isabella Teotocchi, sa consolation est bien évidemment de contempler les chefs-d'œuvre et de les copier.
Et sa participation à la campagne d'Égypte est aussi due à son art du dessin.
Oui, il y a des passages tout à fait extraordinaires où Denon dit sa fascination d'une manière... je pense que ce qui est intéressant, c'est que c'est, au fond, un personnage qui ne compose pas. Il y a une sorte d'immédiateté de l'admiration face au chef-d'œuvre égyptien qui est tout à fait remarquable. Ce regard-là est effectivement un regard neuf sur l'art égyptien, puisqu'il ne place plus la Grèce en premier et l'idéal antique, mais bien constate que, manifestement, les qualités artistiques des Égyptiens et de l'art égyptien pharaonique est indéniable.
L'inventaire de 1807 dénombre 314 pièces, et en plus, il faut ajouter les priapés.
Oui, on connaît surtout les retirages faits à la fin du XIXe siècle. Et les épreuves d'époque ont dû être censurées. Je crois qu'à Venise, elle les a faites à Venise en 93, juste avant de fuir. C'est aussi un genre très, très particulier qui monte un peu l'esprit toujours dilettante et un peu malicieux, très malicieux de Vivant Denon.
Libertinage dans le dessin, puis dans un conte, c'est une des voies du XVIIIe siècle.
J'aimais éperdument la comtesse de... J'avais 20 ans et j'étais ingénue. Elle me trompa, je me fâchais. Elle me quitta. J'étais ingénue, je la regrettais. J'avais 20 ans, elle me pardonna. Et comme j'avais 20 ans, que j'étais ingénu, toujours trompé, mais plus quitté, je me croyais l'amant le mieux aimé, partant le plus heureux des hommes. Elle était amie de Madame de T, qui semblait avoir quelques projets sur ma personne, mais sans que sa dignité fût compromise. Comme on le verra, Madame de T avait des principes de décence auxquels elle était scrupuleusement attachée. Un jour que j'allais attendre la comtesse dans sa loge, je m'entends appeler de la loge voisine. N'était-ce pas encore la décente Madame de T ? Quoi, déjà, me dit-on ? Quel désœuvrement ! Venez donc près de moi. J'étais loin de m'attendre à tout ce que cette rencontre allait avoir de romanesque et d'extraordinaire. On va vite avec l'imagination des femmes. Et dans ce moment, celle de Madame de T fut singulièrement inspirée. Dominique Vivant de Non, Point de lendemain.
Point de lendemain, donc, a pour première particularité d'avoir plusieurs versions. La première est de 1777, la seconde, toujours anonyme, de 1812. C'est celle que nous lisons aujourd'hui, c'est celle qui est le plus habituellement disponible. Le texte a connu aussi une version pornographique, sans nom d'auteur, intitulée « La nuit merveilleuse ». La différence entre les deux versions tient essentiellement dans le style, qui est encore plus efficace, dirait-on, plus vif, comme resserré. Le temps d'une nuit, une femme trompe tout à la fois son mari, son amant et le jeune homme qu'elle a emmené avec elle à la campagne. Le point de lendemain est incontestablement un chef-d'œuvre d'un point de vue narratif et prend place dans une longue série de contes libertins. Tout y est prodigieusement simple, parfaitement monté, calculé pourtant. On voit alterner un extraordinaire naturel qui côtoie le comble de l'artificiel. C'est une machine parfaitement réglée. Le projet de séduction est mené à bien par une femme avec des moments et des lieux très précis. L'opéra, le jardin, le fameux cabinet. C'est aussi une leçon, et c'est peut-être la chose la plus extraordinaire, une leçon de nuit, dit joliment Philippe Solers, leçon d'une nuit, en réalité, qui est aussi une leçon de décence. Il n'y a pas à ce conte de morale, et on se souviendra qu'il se termine de cette manière, « Je cherchais bien la morale de toute cette aventure, et n'en trouvais point. »
Une leçon de nuit qui est en même temps l'abolissement du temps.
Qui est en même temps l'abolition du temps, le temps d'une nuit. Enfin, il y a cet aspect tout à fait magique donné par les lieux et soigneusement en quelque sorte rythmé par un exercice de séduction qui tient du très grand art, puisqu'il y a un tempo extrêmement précis, rapide, mais pensé avec une extraordinaire astuce de la part de la séductrice, la fameuse Madame de T.
Oui, et cette volonté de séduire fait que ce petit conte se place vraiment très bien dans la tradition libertine du XVIIIe siècle.
Le jeune homme est aussi, d'ailleurs, censé comprendre très très vite qu'il a été parfaitement berné.
Berné, mais heureux.
Parce berné, que mais heureux.
Il y a différentes étapes qui font que ce jeune homme assez vif, qui montre bien qu'il a 20 ans, découvre peu à peu, grâce à cette femme, il découvre l'alchimie du plaisir.
L'alchimie du plaisir, d'autant plus que Madame de T le renvoie à sa maîtresse, une certaine comtesse à laquelle il est fait allusion en début de conte. Donc tout se tient très bien, chacun retrouve sa place à la fin de cette nuit.
Je prie le lecteur de se souvenir que j'ai 20 ans. Cependant, la conversation changea d'objet, elle devint moins sérieuse. On osa même plaisanter sur les plaisirs de l'amour, l'analyser, en séparer le moral, le réduire au simple, et prouver que les faveurs n'étaient que du plaisir. Qu'il n'y avait d'engagement, philosophiquement parlant, que ceux que l'on contractait avec le public, en lui laissant pénétrer nos secrets et en commettant avec lui quelques indiscrétions. « Quelle nuit délicieuse, dit-elle, nous venons de passer par l'attrait seul de ce plaisir, notre guide et notre excuse. »
L'attribution de ce texte a été un problème d'histoire littéraire pendant tout le XIXe siècle et une partie du XXe siècle. Je pense que là, le débat est ouvert et à mon sens, il n'y a pas moyen de trancher.
Et la langue, elle ne vous aide pas ? C'est une langue magnifique.
C'est une langue magnifique et c'est précisément peut-être ce qui amène à certains doutes. Puisque j'ai eu cette difficulté, au bout du compte, à retrouver Vivant de Nom dans Point de Lendemain en lisant sa correspondance. Les 300 lettres à Isabelle Atoto qui sont d'un ton très très différent. On a effectivement avancé l'idée d'un de nom libertin. Cette idée ne tient pas trop bien quand on lit la correspondance. On y voit quelqu'un qui, de nouveau, ne...
Oui, mais en fait, il pouvait ne pas être libertin dans ses rapports avec celle qu'il appelle Bettine.
Bien évidemment. Et je pense que, justement, il s'agit de ne pas confondre la littérature et la vie. C'est-à-dire qu'à mon sens, il y a beaucoup plus de cohérence entre même Julie et le bon père, les deux voyages et les 300 lettres à Isabelle Atoto. Là, on a effectivement un ensemble stylistique qui se tient davantage que si on considère Point de Lendemain.
Point de lettre de toi. Ô ciel, je suis perdu. Je suis au comble du malheur. Ah, mon ami, je ne connaissais pas toute l'étendue de ma misère. Elle est infinie, elle est insupportable. J'ai été 3 fois à la poste. On m'a pris pour un fol. On ne s'est pas trompé. Ma tête est perdue. 10 jours dans cet état, ô ciel, que vais-je devenir? Mon ami, je ne sais plus qu'implorer, car rien ne peut me secourir. Une de tes lettres, ou la mort.
Martine Reed, vous avez écrit la préface de ce que a édité l'édition du Promeneur, Voyage dans la Basse et la Haute Égypte pendant les campagnes du général Bonaparte. Vous avez surtout la grande chance, je pense, enfin grande chance pour nous, de mettre au jour ces 300 lettres qui sont en voie d'édition par Actes Sud, 300 lettres qui sont actuellement encore dans une bibliothèque en Italie.
C'est vrai que j'ai un petit peu la chance d'avoir pu lire ces 300 lettres qui, je pense, vont modifier sensiblement la perception que l'on a de Denon homme et homme de lettres, puisque immanquablement on y apprend un tas de choses neuves, non seulement sur la passion et l'immense affection qu'il a unie pendant à peu près 37 ans, si on se tient à la correspondance à Isabelle Atoto, mais également sur ce qu'il a pu faire au jour le jour, tant qu'il était à Venise, et puis dans les années qui ont suivi son arrivée à Paris, la Révolution, et bien entendu, ensuite, ses occupations au Louvre.
Oui, puis on connaissait davantage l'homme public, l'homme qui avait été diplomate, qui avait été le premier directeur du Louvre. Sa vie publique, donc.
Oui, sa vie publique, absolument. C'est une ouverture, je pense, tout à fait neuve et intéressante de ce point de vue sur la vie privée de Vivant Denon et sur le caractère très évident de fidélité et d'attachement à la personne d'Isabella Teotihuacan, qui personne, c'est quelque chose que révèle la correspondance, qu'il avait donc eu l'intention d'épouser, puisque la correspondance signale que non seulement il avait l'intention de l'épouser, mais aussi de vivre à Venise, faisant commerce de ses gravures, faisant aussi commerce d'antiquités.
D'ailleurs, je crois qu'il donnait aussi des leçons de dessin ou de gravure.
Il a également, oui, absolument. Il s'occupait, il avait constitué un petit groupe d'élèves autour de lui pour enseigner le dessin.
On connaît sa journée, par exemple, par Madame Vigée-Lebrun.
Je brûlais de voir Venise. J'y arrivais la veille de l'Ascension en 1792. Monsieur Denon, que j'avais connu à Paris, va me voir aussitôt. Son esprit et ses grandes connaissances dans les arts faisaient de lui le plus aimable cicérone. Et je me réjouis beaucoup de cette heureuse rencontre. Il me conduisit sur le canal où se faisait le mariage du doge avec la mère. Le lendemain, M. Denon me présenta à son amie, Mme Marini, qui depuis a épousé le comte Albrizzi. Elle était aimable et spirituelle. Le soir même, elle me proposa de me mener au café, ce qui me surprit un peu, ne connaissant pas l'usage du pays. Mais je le fus bien davantage quand elle me dit « Est-ce que vous n'avez point d'amis qui vous accompagnent ?» Je répondis que j'étais venue seule avec ma fille et ma gouvernante. « Eh bien, reprit-elle, il faut au moins que vous ayez l'air d'avoir quelqu'un. Je vais vous céder Monsieur Denon qui vous donnera le bras et moi je prendrai le bras d'une autre personne. On me croira brouillée avec lui et ce sera pour tout le temps que vous serez ici, car vous ne pouvez pas aller sans amis. » Elisabeth Vigée-Lebrun.
On peut d'abord rappeler qu'Isabella Teotihuacan, qui appartient à une famille patricienne de Venise, Byron, qui la connaîtra plus tard, au début du XIXe siècle, dira d'elle qu'elle est la Madame de Staël vénitienne. Effectivement, il semble que c'est quelqu'un qui était remarquablement instruit et qui tenait salon et qui a donc très rapidement réuni autour d'elle une série d'artistes. Manifestement, tous ces artistes et intellectuels sous le charme de cette très jeune femme. Et là, 28 ans, au moment où Denon fait sa connaissance, Denon en a un peu plus d'une quarantaine. Les lettres montrent très vite l'extraordinaire attachement. Isabella Teotihuacan qui est mariée à ce moment-là à un poète qui s'appelle Carlo Marin, et l'extraordinaire attachement, passion véritable qui unit les deux amants pendant les 5 années que Vivant Denon passe à Venise. Vivant Denon dira et répétera à cette femme à laquelle il écrit entre 1788 et 1825,
sa mort.
C'est-à-dire sa mort, il lui dira jusqu'à la fin, même quand elle s'est remariée, qu'elle a eu un fils et que manifestement leurs chemins ont divergé, que l'époque vénitienne est la plus belle de sa vie.
Après ces 5 années passées à Venise, Vivant Denon est expulsé par le Conseil des 10.
De la barque, le 14 juillet 1793. J'ouvre les yeux et je me trouve dans la lagune. Je voudrais que ce fût en pleine mer, pour qu'il n'y eût pas un point dans la nature qui rappelât qu'elle existe, pour que ce vide ressemblât plus à l'isolement que j'éprouve. Je veux t'écrire. Je ne puis arrêter d'idées, ni en former une tout entière. Avant-hier, tout. Aujourd'hui, rien. Ah, que dis-je, n'emportais-je pas ton amour? C'est lui qui fait circuler mon sang. Il s'arrêterait sans lui. Les cruels, je vois 3 furies qui tourmentent 2 amants, avec quelle froideur ils les déchirent. Mon ami, j'ai su par le baron qu'on m'accusait dans le club Pesaro d'avoir formé un club de jacobins chez toi. Voilà tout ce que nos ennemis ont inventé de plus ingénieux pour nous assassiner. Qu'ils sont heureux, si des méchants peuvent l'être, nous nous aimerons pour les tourmenter. Ah, mon ami, tu m'aimeras toujours, car je n'existe que depuis que je t'aime.
De retour à Paris, alors, il semble avoir certaines difficultés, malgré des appuis importants, à se refaire une place et donc profite de la possibilité d'aller en Égypte. Il le dit très clairement dans sa correspondance. Il tient beaucoup à ça parce que ce sera la possibilité de résoudre un certain nombre de problèmes, entre autres financiers.
C'est d'ailleurs très curieux, la façon qu'il a eue de vivre à Paris. Au temps où Paris était tellement bouleversé par la Révolution, Il était protégé ou bien il s'adaptait ?
Il était protégé par David. Les lettres sont un peu étonnantes parce qu'elles adoptent très vite, et on ne peut pas croire que ce soit seulement pour des raisons de censure, elles adoptent très vite un ton qui célèbre la République nouvelle.
À Paris, le 29 décembre 1793. On connaît bien vite ici les bons citoyens. Il n'y a que les fripons et les intrigants de tourmenter. Les autres vivent tranquilles et on leur rend justice. Je suis déjà plus connu et je connais plus de gens dans mon quartier depuis 15 jours que j'y suis que je n'en ai connu en 15 ans dans l'autre régime. Et avec de bonnes façons, il n'y a sorte de secours que je n'en obtienne. J'ai déjà monté 3 gardes. Aubourg et moi, nous avons 2 des plus belles piques de la République. Si tu m'entendais dire « qui vive », je t'assure que tu ne serais point fâché d'avoir un ami aussi martial. Je fais, les nuits, au corps de garde, les portraits de tous mes camarades. Aussi sollicite-t-on pour monter les gardes avec moi.
Il semble pourtant mener ce que j'ai pu appeler la vie d'une sorte de neveu de Rameau, manifestement beaucoup plus talentueux, beaucoup plus inscrit aussi dans la société du temps. Il dira, et je pense que c'est une notion intéressante, il dira et redira souvent dans sa correspondance, à partir justement de son retour à Paris, qu'heureusement il est de naturel si gai, c'est son expression, que les sociétés, au fond, les tables et les maisons lui sont toujours ouvertes. Il le dira jusqu'à la fin, donc même après 1815, une fois que manifestement il est rentré dans l'ombre et qu'il montre ses collections aux visiteurs, il redira que ce qui, au fond, l'a mené toute sa vie et a permis peut-être de traverser vents et marées sans trop de difficultés, c'est ce naturel, et cette sympathie qu'il avait si manifestement pour tout et tout le monde.
À Venise, j'eus pour guide un de nos Français les plus aimables. Non sous le rapport de la figure, il est vrai, car Monsieur Denon, même très jeune, a toujours été assez laid. Ce qui, dit-on, ne l'a pas empêché de plaire à un grand nombre de jolies femmes. Élisabeth figeait le brin.
J'avais toute ma vie désiré de faire le voyage d'Égypte. Mais le temps, qui use tout, avait usé aussi cette volonté. Lorsqu'il fut question de l'expédition qui devait nous rendre maîtres de cette contrée, la possibilité d'exécuter mon ancien projet en réveilla le désir. Un mot du héros qui commandait l'expédition décida de mon départ. Il me promit de me ramener avec lui, et je ne doutais pas de mon retour. Voyage dans la Basse et la Haute Égypte pendant les campagnes du général Bonaparte.
Alors nous sommes au printemps de 1798. Bonaparte avait convaincu le directeur d'organiser une campagne en Égypte, s'embarque à Toulon avec une armée de 54 000 hommes, c'est donc une opération militaire, mais c'est une opération qui est doublée d'une exploration scientifique, car il y a plus de 154 savants, des jeunes savants d'ailleurs, qui sont du voyage. Et Vivant Denon, lui, a obtenu de faire partie de l'expédition. Sans doute c'est grâce à Joséphine de Beauharnais qu'il a aidé dans la constitution de sa collection. Alors c'est un rôle important, Chantal Orgogozo, qu'a joué Vivant Denon avec cette découverte de l'Égypte.
Oui, tout à fait. Denon a 51 ans, donc déjà très âgé par rapport à l'ensemble de l'équipe des savants, part en Égypte avec un esprit très ouvert, très curieux. Il va tout d'abord débarquer à Alexandrie, rester un petit peu avec le général Menou dans le Delta, rejoindre Bonaparte au Caire. Il écrit à ce moment de son voyage qu'il ne voit pas suffisamment de monuments pharaoniques. Il s'en inquiète. Il va donc, grâce à Bonaparte, pouvoir rejoindre l'expédition de Desaix qui, en Haute-Égypte, poursuit Mourad Bey, un chef mamelouk, et va donc pouvoir croiser, regarder, étudier, dessiner assez longuement la plupart des grands monuments égyptiens qui se trouvent en Haute-Égypte.
après avoir fait à toute voile un dessin de Kenoubis en descendant le fleuve en barque, il m'en fallut faire à toute bride un autre en remontant par terre, maudissant la guerre, les guerriers et l'importance de leurs opérations qui me faisaient toujours tout quitter pour courir en vain après des gens qui faisaient en un jour plus de chemin que nous en trois.
Denon va, par exemple, passer non seulement une première fois dans la région thébaine, mais il va y revenir 6 fois de suite pour aller sur les deux rives du Nil et très longuement dessiner et redessiner ces monuments. Ce sont donc des dessins qui vont faire date parce qu'ils sont beaucoup plus fouillés, beaucoup plus précis que ce que ses prédécesseurs avaient pu faire. Cependant, Denon est un artiste, un dessinateur, il y a donc une verve que l'on retrouve peut-être pas dans la description d'Égypte qui va être faite par la suite. C'est très vivant, son texte et le texte de son voyage est vivant, ses dessins le sont aussi, et il va tout de suite intéresser le grand public à l'Égypte.
On sait qu'il a un petit sac de crayons autour du cou, un portefeuille sous le bras et qu'il dessine même à cheval. Il n'arrête pas, donc ça évidemment ça surprend beaucoup ses compagnons de voyage militaires. C'est des dessins faits très rapidement, sans doute un petit peu repris à son retour. Il y en a plus de 300, ils ont été achetés par un Anglais, ils sont à sa vente après décès, ils sont maintenant quasiment tous au British Museum.
Il est très souvent en train de dessiner au milieu des batailles ou juste à proximité. Il a lui-même résumé, à côté d'un dessin qu'il a fait à Hiéraconpolis en Haute-Égypte, ses conditions de travail. Je vais vous le lire. « Je me suis représentée avec toutes les ruines de mon costume, suite inséparable de mes marches continuelles, de la perte de mes équipages et du peu de soins et de temps que j'avais à donner à ma personne. Occupée de mes dessins et de mon journal, je ne soignais que, je n'ai jamais quitté mon portefeuille, je le portais partout et la nuit, il me servait d'oreiller. Car c'est ainsi que j'ai fait mon journal et mes dessins, pour qu'ils eussent, sinon le mérite de la pureté, au moins la naïveté du moment et la vérité de la nature. »
Là aussi, je pense que la passion de l'art est la plus forte et de nom est effectivement resté dans les esprits comme quelqu'un qui n'a pas hésité à courir toute espèce de danger pour aller voir sur place les monuments. Même le choix de suivre de ces en Haute-Égypte appartient à cette sorte d'impulsion irrépressible à aller juger de l'art sur place en se disant que là au moins il va pouvoir voir un tas de choses intéressantes.
Et Vivant Denon rapporte, à ce moment-là, la matière de 2 livres, 2 livres qui seront publiés avec grand succès, traduits en 3 langues. Ces 2 livres, c'est un volume qui est composé du récit de ce voyage qui a duré 13 mois, et un autre volume qui comporte presque 1 millier de gravures.
Le texte également rencontre des batailles, rencontre des personnages et des Égyptiens que Vivant Denon va pouvoir croquer, dessiner sur le vif, avec qui il va parler. Il nous indique les coutumes de cette population. Il a des pages très très belles sur les batailles qui sont livrées et sur la douleur des hommes des deux camps au cours de ces luttes. Mais évidemment, le plus important, me semble-t-il, c'est toute la partie archéologique, parce qu'il a une vision des monuments égyptiens comme personne ne l'a eu encore. En particulier, c'est le premier, avant Champollion, à dire que l'art grec n'est peut-être pas la seule chose importante, que d'autres monuments égyptiens ont non seulement été construits antérieurement, mais sont peut-être aussi beaux, et que le seul critère de référence n'est pas uniquement l'art grec.
Quand on se réfère précisément au voyage de Volney ou de Savary, les intentions sont autres. Chez Vivant Denon, il y a manifestement une double intention, mais qui relève d'un caractère là aussi immédiat, impulsif, à savoir raconter, tenir le journal de la campagne d'Égypte telle qu'il l'a vécue, ne pas hésiter à raconter les horreurs de la guerre. Il y a quelques très belles pages sur la mort, sur l'horreur de mourir loin de la France, qui sont certainement apportées à son crédit en termes de sensibilité, qui annoncent déjà une certaine esthétique pré-romantique à la manière de Chateaubriand.
les mamelouks tombés de cheval se traînent sous les baïonnettes et viennent chercher avec leurs sabres les jambes de nos soldats. Le mourant rassemble sa force et lutte encore contre le mourant, et leur sang qui se mêle en abreuvant la poussière n'a pas apaisé leur animosité. Un des nôtres, renversé, avait joint un mamelouk expirant et l'égorgeait. Un officier lui dit « Comment, en l'état où tu es, peux-tu commettre une pareille horreur ?»« Vous en parlez bien à votre aise, vous, » lui dit-il. « Mais moi, qui n'ai plus qu'un moment à vivre, il faut bien que je jouisse un peu. » Jamais il n'y eut de bataille plus terrible, de victoire plus éclatante, de résultats moins prévus. C'était un rêve dont il ne restait qu'un souvenir de terreur. Pour la représenter, j'en fis deux dessins. J'ai voulu peindre dans ces deux sujets la guerre telle qu'elle est, généreuse et implacable, atroce et sublime.
Par ailleurs, s'il y a un vrai journal de la campagne, il y a aussi des considérations de type artistique faites in situ, justement, de manière immédiate sur l'art égyptien et les splendeurs qu'il a produits.
Et bien sûr, il est conscient quand même que c'est une chronique de voyage. Il y a des anecdotes, il y a des observations sur les vols sauterelles, par exemple.
Oui.
Sur la température, la difficulté de vivre dans cette chaleur.
On a manifestement là une démarche qui appartient à l'esprit des Lumières et à l'encyclopédie, et après tout le geste même de Bonaparte, à savoir faire monter à bord avec des milliers de soldats, 167 savants exactement, participe évidemment d'une volonté de connaître l'Égypte sous tous ses aspects.
Et puis quelques observations nourries aujourd'hui d'ethnologues sur la manière de vivre du monde qu'il rencontre.
Oui, là je pense qu'il répond à une injonction qui est celle des voyageurs du XVIIIe siècle, à savoir quand on se rend à l'étranger, on dépeint l'habitant, on essaie de constituer très vite une sorte de typologie des différentes populations. Cette typologie-là, Denon manifestement la trouve chez Volney et la reproduit sans grande originalité. C'est pas à mon sens là qu'au fond il est le meilleur. Au fond, quelque part, le style est assez disparate. Je suis assez frappée du fait que Denon n'ait, par exemple, pas songé à constituer des chapitres. Il est certain que le voyage en Égypte se présente comme une sorte de
un
tout,
bloc,
un bloc de 300 ou 400 pages selon les éditions. Et là, le lecteur doit vraiment se lancer. C'est un petit peu difficile. Et je pense que, précisément, dans son esprit, quelque chose est donné dans son caractère presque brut, qui sera accompagné d'ailleurs d'une partie où l'Égypte sera donnée à voir. Et quelque part, ce geste-là n'est pas le geste d'un écrivain.
Oui, mais on peut penser aussi que les voyages en Égypte qui vont suivre ont été influencés par Denon. C'est un pas de plus.
Oui, manifestement, je pense que c'est un regard sur l'Égypte qui marque un tournant. C'est-à-dire que là aussi, il se distingue, à l'exception de quelques reprises évidentes, il se distingue de Volney, Savary et même Nordaine, pour citer les plus évidents, et que quelque chose est donné de plus vivant, de nouveau. Là, on est obligé de reprendre cet adjectif, de résolument plus vivant.
Alors, qu'apporte-t-il à la connaissance du passé? Est-ce qu'il fonde, comme on le dit quelquefois, l'égyptologie?
Il a, semble-t-il, très concrètement aider l'égyptologie. Juste avant de quitter le Caire, Denon montre ses dessins à Bonaparte. Bonaparte, à la vision de tout ce qu'il rapporte, va décider de créer deux commissions qui auront pour tâche d'étudier et de dessiner les monuments. Et ce sont donc ces deux commissions dirigées par Costaz et Fourier qui vont rapporter des portefeuilles de dessins tout à fait considérables. Ceci donnera naissance à la description d'Égypte publiée à partir de 1809. Donc, plusieurs années après Denon, c'est vraiment Denon qui va lancer la mode égyptienne.
Il a été également décrété qu'un festival sera célébré dans les temples de toute l'Égypte pendant ces jours, chaque mois, au cours desquels seront faits sacrifices et libations et toute autre cérémonie coutumière que l'on fait aux autres festivals.
La pierre de Rosette qui a permis à Champollion la découverte des hiéroglyphes a été trouvée pendant cette expédition d'Égypte.
Et un festival sera établi pour le roi Ptolémée, vivant éternellement, l'aimé de Ptah, le dieu Épiphane Eucharist, annuellement dans les temples de tout le pays, depuis le premier Thoth et pendant 5 jours, au cours desquels ils porteront des guirlandes et accompliront des sacrifices et des libations et les autres rites coutumiers, et les prêtres dans chaque temple seront appelés prêtres du dieu Épiphane Eucharist, en plus des noms des autres dieux qu'ils servent.
La fameuse pierre de Rosette a bien été rapportée par l'expédition, rapportée tout au moins jusqu'à la mer Méditerranée, puisqu'ensuite les Anglais en ont pris possession, et elle n'a été déchiffrée que quelques années plus tard. Mais cependant, les hiéroglyphes étaient remarqués.
Tout à fait. Cette pierre est maintenant au British Museum, comme vous le savez. Malheureusement, pourrait-on dire, c'est elle qui a permis le déchiffrement des hiéroglyphes. Je crois que les savants qui accompagnaient Bonaparte ont mesuré, au moins certains d'entre eux, l'importance des textes sur les temples égyptiens, et en particulier de Nom, qui écrit de très belles pages dans son ouvrage, pour dire qu'il ne comprend pas, bien sûr, cette langue faite de dessins, mais qu'il s'astreint à la recopier le plus lisiblement, le plus clairement possible, pour que des chercheurs, à sa suite, puissent essayer de la déchiffrer. Et il pense que là se trouvent les clés de cette civilisation qu'à l'époque de Bonaparte, on connaît mal et qu'on comprend surtout très mal.
Le journal de Vivant de Nom est très divers. Par moments, il y a une véritable explosion d'enthousiasme.
Oui, tout à fait. Ses goûts sont d'ailleurs étonnants. Il parle, par exemple, avec peu d'enthousiasme de Thèbes et de Karnak. On aurait pu s'attendre à des textes plus élogieux. Mais il va insister longuement, à la fois sur le site d'Hermopolis, où il rencontre le premier portique de style pharaonique. Il est donc tout à fait ému. Et puis il parle avec des textes absolument dithyrambiques de Dendera, qui, je crois, l'a complètement fasciné.
Je n'aurai point d'expression pour rendre tout ce que j'éprouvais lorsque je fus sous le portique de Tintira. Je crus être, j'étais réellement, dans le sanctuaire des arts et des sciences. Que d'époques se présentèrent à mon imagination à la vue d'un tel édifice. Que de siècles il a fallu pour amener une nation créatrice à de pareils résultats, à ce degré de perfection et de sublimité dans les arts. Combien d'autres siècles pour produire l'oubli de tant de choses et ramener l'homme sur le même sol à l'état de nature où nous l'avons trouvé. Jamais tant d'espace dans un seul point, jamais les pas du temps plus prononcés et mieux suivis.
Il était cultivé, pour employer un mot moderne. Et cela faisait beaucoup dans ce milieu qu'il fréquentait.
De Nom n'est pas à proprement parler un lettré comme l'entend l'encyclopédie et comme le sont un certain nombre de ses contemporains. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une connaissance, semble-t-il, très limitée des grands écrits philosophiques de l'époque. C'est quelqu'un qui ne cite pas Rousseau, Diderot, Voltaire. C'est quelqu'un qui ne cite pas en italien, qui ne cite pas en latin, qui a une écriture, surtout dans la première moitié de la correspondance, relativement maladroite.
Et pourtant, dans son voyage en Égypte, quand il voit quelque chose, c'est tout de suite une référence à un auteur du passé.
Oui, alors il a ce geste, c'est-à-dire qu'il passe immanquablement par Savary, Volney et quelques références obligées, mais je pense que c'est quand même quelqu'un qui, au fond, se constitue une pensée autonome, sans prendre appui, ce qui était quand même un petit davantage la tradition, sans prendre appui sur ce qui a été fait auparavant, et ce qui fait, à mon sens, la richesse, par exemple, du voyage en Égypte.
À Madame Isabella Teotocchi Albrizzi, à Venise, Paris, 15 mars 1800. Ma chère amie, j'espère que voilà notre correspondance rétablie. Te voilà donc avec un fils, et moi de retour d'Égypte. Nous avons fait tous deux ce qu'il y avait de mieux à faire, Mais nous n'avons pas fini. Tu as ton fils à élever et moi, mon voyage à mettre au jour. La différence qu'il y a entre nous, c'est que la fortune de ton ouvrage est faite et que celle du mien est à faire. J'ai plus de peine ici avec les graveurs que je n'en ai eu avec les Éthiopiens et les Arabes. Ils me ruinent et ne me satisfont pas.
En 1802, Dominique Vivant-Denon est nommé directeur du Musée central des arts, c'est-à-dire...
Alors, le Musée central des arts a été inauguré en 1793. Donc, Denon hérite d'un musée déjà assez riche, notamment donc, les collections royales, les saisies révolutionnaires et les saisies italiennes. En Italie, par exemple, déjà les grands chefs-d'œuvre sont là. Le Laocoon, l'Apollon du Belvédère sont déjà en place. Les grands Raphaël du Vatican sont là. Denon va infléchir sa direction vers un musée universel destiné un peu à rassembler finalement tout ce que l'on pourra prendre dans les collections européennes, un musée européen en fait, et le terme apparaît dans sa correspondance.
Pierre Rosenberg a fixé au mois d'avril 1999 une grande exposition au Louvre consacrée à Vivant-Denon. Pierre Rosenberg.
Le personnage est fascinant. Il a bien sûr été le premier grand directeur du Louvre. Il a joué un rôle absolument essentiel et dans deux domaines. Il a non seulement été le directeur du Louvre, c'est-à-dire celui qui se consacrait au passé, mais aussi le directeur des manufactures de Sèvres, de la Monnaie et aussi de la création artistique contemporaine, qu'elle soit peinte ou que ce soit le mobilier. Donc un personnage qui avait véritablement le pouvoir dans le domaine des arts visuels sous l'empereur et qui a joué de son pouvoir pour véritablement transformer l'idée que l'on pouvait se faire des musées. En fait, on n'y pense même plus. Quand on visite un musée aujourd'hui, on est tout habitué, il paraît tout naturel que les œuvres soient divisées par école et qu'elles soient présentées chronologiquement, que l'on aille de Giotto à Masaccio, de Masaccio à Raphaël et de Raphaël à Tiepolo. Et en fait, c'est non pas une invention de Vivant-Denon, de Dominique Vivant-Denon, ce serait absurde de le croire, mais l'idée était déjà dans l'air bien auparavant, non seulement en France, mais aussi en Angleterre et en Allemagne. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a transformé ce qui était une idée en une réalité. Cette réalité, ça a été le musée Napoléon. Et c'est quand même assez impressionnant de se dire que ce musée constitué de rapines, en partie, il y avait bien sûr les collections du Louvre proprement dites, fort heureusement, les collections de Louis XIV, etc., les achats de Louis XVI, etc., que ce musée a failli rester intact. C'est dire à quel point la force de conviction du musée et de son directeur, Dominique Vivant-Denon, était grande. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, pour ce qui est des primitifs italiens, qui à l'époque, je le rappelle, étaient méprisés, méconnus, ceux-ci sont arrivés de Florence et d'Italie tardivement, en 1811, 1812. Jusqu'au dernier jour de l'Empire, des œuvres arrivaient encore pour compléter ce musée et pour en faire non seulement un musée qui soit convaincant du point de vue esthétique, selon l'esthétique de l'époque, bien entendu, mais qui soit aussi historiquement aussi complet que possible. Donc il n'y a pas eu un musée Napoléon. Il y a eu lentement une idée qui s'est transformée, qui n'a pas pu être complètement achevé à la chute de Napoléon et qui a été tout de suite, après la chute de Napoléon, évidemment dispersé. Ce qui a fait que Dominique Vivant-Denon, aujourd'hui, n'est pas suffisamment connu, c'est tout simplement que l'homme est tellement riche, avait des intérêts tellement variés, une curiosité tellement grande pour tout, Dans sa collection, on trouve des objets africains, on trouve des objets précolombiens, des choses extraordinaires que personne, jusqu'à présent, n'avait suffisamment de compétences pour le traiter.
Paris, 12 juin 1803. Si je t'aime, ma chère Bettine, demande-le à mon cœur, à mon esprit, à mon habitude qui ne pourrait pas me laisser faire autrement. Demande-le à mes amis, à mes connaissances, à l'univers, à qui je parle de ton amabilité, de mon attachement pour toi. Après cela, si tu me demandes des raisons de mon silence, je ne saurais te répondre autre chose sinon que hier encore je voulais t'écrire, que tout à l'heure je voulais t'écrire, qu'hier et tout à l'heure encore on m'en a empêché.
Vivant Denon dirigeait donc ce musée, qu'il avait appelé « Musée Napoléon ». Il devait en outre se rendre souvent dans les grandes villes européennes, voire sur les champs de bataille, pour y faire l'esquisse du tableau d'histoire qu'il avait à commander. Il voulait aussi orner les rues de Paris, les ponts, les places. L'arc du carrousel avec son quadrige et la colonne Vendôme qui porte, dessinée, les campagnes de l'empereur, témoignent de cette volonté qu'il a de glorifier l'héroïsme. Pour remplir ses tâches, Denon était une sorte de surintendant des arts. Il avait la responsabilité de tous les ateliers, soit une centaine d'artistes, sculpteurs, peintres, graveurs, dessinateurs, médailleurs, lissiers, fondeurs, peintres sur porcelaine. Marianne Dupuis.
Il connaissait bien la psychologie des artistes. Il avait déjà dirigé des artistes lors de son voyage en Italie. Et il sait bien comprendre, il sait très bien jusqu'à quel point il peut insister, refaire faire un tableau, guider aussi les prix, puisque finalement il est chargé de ça aussi. Donc cet ascendant sur les arts se fait progressivement. Denon est une sorte d'expert, en fait. Donc il sait très bien quel sujet demander, à quel type d'artiste, dans quel format. Il a toujours des tas de listes de sujets à pouvoir commander pour la galerie de Diane aux Tuileries ou pour Fontainebleau. Et il défend les artistes en tout premier lieu. Il pense qu'il faut relancer la création. C'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse à l'iconographie et parce que finalement il prend la direction de la propagande impériale. Donc au début de son directorat, Denon est plutôt bien vu par les artistes. Ils ont l'impression qu'ils vont avoir quelqu'un, un interprète, qui va les défendre, qui va les soutenir et les encourager. Et petit à petit, vu l'inflexion très, très propagandiste que prennent les commandes, il porte un autre regard sur Denon et les caricatures qui apparaissent après 1815, ou peut-être même un peu avant, montrent que quand même il était ressenti comme quelqu'un comme le cauchemar du peintre. Il y a un dessin très méchant qui le montre en train de, comme une espèce de tigre ou de chat, agrippé sur le lit d'un pauvre artiste qui n'en peut plus du harcèlement du directeur.
Cette prairiale en 12. Sire, lorsque votre majesté nomme un conseiller d'État, elle en fait sans doute un homme considérable. Mais en faire un homme de goût, je crois que c'est là que faut sa toute-puissance. Vous m'avez ordonné de m'entendre avec les membres de la commission du conseil d'État pour le sceau et le costume de votre majesté. Comment s'entendre avec des gens qui ne savent ce qu'ils veulent et qui ne s'entendent pas eux-mêmes ? Si votre majesté veut ne jamais apposer son sceau, si elle ne veut pas être habillée ou si elle veut l'être ridiculement, il n'y a qu'à attendre la décision de la commission.
Il est certain que Denon,
Martin Reed,
est absolument fasciné par Bonaparte, et c'est quelque chose que la correspondance mettra, à mon sens, un petit peu mieux en évidence. Les historiens, jusqu'à présent, ceux qui ont écrit sur Denon, ont facilement laissé cette question plus ou moins dans le brouillard, où on dit qu'il y avait là une sorte d'opportunisme de Denon qui, au fond, avait servi tous les maîtres qui se présentaient.
Oui, car c'est quand même assez vrai. Il a vécu sous beaucoup de régimes. Fort bien,
et semble-t-il, sans état d'âme particulier quant au choix politique que ça impliquait. Et pourtant, j'ai trouvé dans la correspondance avec Isabelle Atteotto une lettre du 6 novembre 1803. Bonaparte a disposé de tous mes moments. Effectivement, il a été nommé une année auparavant directeur du Louvre. Il est rare de pouvoir aimer beaucoup les très grands hommes. Mais je t'assure que plus je vois celui-ci, plus je l'aime. Je me trouve heureux que la dernière époque de ma vie soit consacrée à un être si distingué. C'est un astre brûlant qui ravive mon âme. Je suis tout fier de l'entendre et d'en être quelquefois écouté. C'est la seule infidélité que je t'ai faite. Alors je pense que le propos est fort et montre effectivement que Denon a bel et bien pu être absolument subjugué par le personnage de Bonaparte.
Par le personnage et non par la politique.
C'est une question plus difficile à traiter et je pense que les historiens sont plus à même d'y répondre de manière satisfaisante. On sait que Denon a pu agacer Bonaparte, qu'il l'a traité de vil flatteur en plus d'une occasion et que Denon a eu un réflexe, certes, de servir le pouvoir et d'admirer Bonaparte, mais aussi d'imaginer, de faire passer Bonaparte en image, en quelque sorte, par le recours à une peinture d'histoire qui ferait apparaître le personnage de Bonaparte dans diverses situations plus élogieuses les unes que les autres. On peut aussi faire apparaître quelqu'un qui est quand même très soucieux, voulant mettre l'art au service de la politique napoléonienne.
Vous n'accepterez de monument, sire, que ceux d'un genre qui, en consacrant votre gloire, en donneront la mesure et rendront les nations étrangères tributaires de vos magnificences. Alors, leur image répétée par la gravure et par les descriptions étonnera, comme les événements qui en auront été le motif.
C'est le premier directeur nommé. Auparavant, c'était une équipe d'artistes, une commission.
Et pour employer un terme à la mode, il y avait la gestion du musée, la gestion de toutes ces affaires. Quel homme était Denon à ce point de vue-là?
Alors, c'était un homme sans doute extrêmement organisé. La publication de sa correspondance que nous préparons, il y a plus de 5000 lettres.
Correspondance administrative.
Correspondance administrative, voilà. Correspondance qu'il tient donc du Louvre, parce que son bureau est au Louvre, même s'il dirige la Monnaie des Médailles, Sèvres, les Gobelins, il s'y rend l'inspection de temps en temps, mais en fait c'est plutôt par courrier qu'il dirige ses établissements, c'est-à-dire qu'il avait des dossiers sans doute très bien tenus pour les différents problèmes, parce qu'il fallait aussi qu'il gère les problèmes de chauffage, les problèmes de gardiennage. Il est très soucieux de l'intérêt de ses gardiens. On voit qu'il les défend au moment où ils prennent leur retraite. Il essaie de leur faire avoir des primes. C'était un travail. Les gardiens étaient aussi les installateurs. En fait, c'est eux aussi qui déplaçaient les tableaux, qui les accrochaient, les raccrochaient. Et c'était un mouvement sans doute absolument quotidien, parce que d'une part, le musée était réservé en priorité aux artistes, à qui le musée était ouvert uniquement pendant la semaine. C'était simplement le samedi et le dimanche que le public pouvait venir. Et donc les artistes venaient là pour copier les tableaux et donc faisaient décrocher les tableaux pour pouvoir mieux les copier.
Ces acquisitions, disons, ou ces rapines.
Des saisies, mais il n'y a pas que des saisies. Il achète aussi. Le Bracesco du Louvre, il l'achète. Il croit que c'est un tableau allemand, par exemple, mais il l'achète. Il y a d'autres choses comme ça. Et il y a des dons aussi. Le grand Giulio Romano de Gênes est un don de la ville de Gênes à l'empereur. Mais les Génois le récupéreront en 1815.
Et ça, c'est une contribution de guerre.
Voilà, exactement.
Mais c'était une grande charge de Denon, ce transfert des œuvres.
Oui, c'était très compliqué. Il fallait faire des caisses des caisses très, très lourdes. Le transfert était souvent long à acheminer. Il y avait quelquefois des pertes en route. Il n'y avait pas que des tableaux qui transitaient. Il y avait aussi un tas de choses, des médailles, des camées, des animaux aussi. Une des premières œuvres que Denon accueille au Louvre, ce n'est pas lui qui l'a saisie, ce sont ses prédécesseurs, mais c'est la Vénus Médicis, et qui est très très longue à venir, et elle fait partie d'un convoi avec notamment un petit léopard, et alors le convoi est tellement long à venir que la cage devient trop petite pour les léopards qui grandit. Donc il y a des choses comme ça qu'il est obligé de gérer à distance, et il s'impatiente beaucoup, et la Vénus Médicis arrive enfin, il l'installe sur un plateau tournant, de façon à ce qu'on puisse admirer mieux la face, son modelé, et elle est placée en vis-à-vis de l'Apollon du Belvédère, et tout de suite on lui frappe une médaille avec la Vénus Médicis.
Mais alors, 1814-1815, les revers militaires,
alors,
1814, il a fallu rendre.
Denon reste en place et passe des commandes à la gloire de Louis XVIII, comme il en a passé des commandes à la gloire de Napoléon aussi facilement, a priori. Et puis, 1815, les choses sont beaucoup plus difficiles. Et là, Denon lutte beaucoup pour ne rien laisser sortir du musée qui n'était été d'abord approuvé par le gouvernement de Louis XVIII et par Pradel. Tout le monde vient rechercher un petit peu. Les Anglais, pourtant, n'ont rien à récupérer, mais jouent la mouche du coche, se servent un petit peu au passage. Et c'est assez compliqué. Denon est obligé de raconter presque heure par heure ce qui s'est passé. Il a été menacé d'emprisonnement et il raconte qu'il y a des tableaux qui ont été dans la bousculade, déchirés, arrachés de leur cadre, des choses qui disparaissent. Alors il fait instituer une douane pour que vraiment ceux qui partent soient bien restitués à leurs propriétaires et ne partent pas ailleurs. C'est une période extrêmement troublée et dramatique en fait. Donc ce musée auquel il a participé pendant 13 ans en fait, il dit bien qu'il ne peut s'en enorgueillir, il n'est pas le seul artisan, et qu'il a été en tout point l'homme des circonstances.
Le 3 octobre 1815, Denon écrit au roi.
Sire, mon âge avancé, ma santé dérangée me commande le repos. J'ose donc le demander à votre majesté. Dominique vivant Denon.
Inventaire de la succession de noms, numéro 646 du tome 1. Cuivre doré, un reliquaire de forme hexagone et de travail.
Il y a un point intéressant dans la vie de Vivant de Noms, plus exactement, on en parle après sa mort, c'est ce reliquaire qui figure dans les inventaires.
Fils surmonté de la croix. Les deux faces principales de ce reliquaire sont divisées chacune en 6 compartiments et contiennent les objets suivants. Fragments d'os du Cid et de Chimène, trouvés dans leur sépulture à Burgos. Fragments d'os d'Héloïse et d'Abélard, extraits de leur tombeau au Paraclet. Cheveux d'Agnès Sorel, inhumés à Loches. Et d'Inès de Castro à Alcobaça. Partie de la moustache de Henri IV, roi de France, qui avait été trouvée entière.
C'est étonnant que cet homme qui a l'air d'être sceptique, de manier l'ironie, qu'il ait rassemblé ce qui semble être le résultat de fidélités multiples.
Au fond, je pense que ça cadre très bien avec le personnage. Le geste du reliquaire est intéressant à bien des égards. D'abord, je pense qu'il souligne ce goût troubadour qu'à l'époque. C'est-à-dire que on a au fond une réinscription, une appropriation d'un objet du Moyen-Âge et son utilisation d'une autre manière, utilisation laïque, en quelque sorte, laïcisée du reliquaire. Et d'autre part, on peut rappeler que c'est à la Révolution française et en particulier à partir de 1793, qu'on ouvre des tombeaux, si on ne l'avait pas fait auparavant, pour des raisons qui sont officiellement celles de faire la collecte de tous les métaux possibles et imaginables. Et à ce moment-là, on le sait par exemple pour la dépouille de Madame de Sévigné, les gens se précipitent pour couper qui une mèche de cheveux, qui un bout de robe, sur le modèle effectivement d'un rapport à l'objet sacré, à la personne sacrée de l'écrivain, qui rappelle, au fond, qui n'est autre chose que la laïcisation du processus traditionnel de la relique. Vivant de nom, on le sait par un très court récit d'un descendant de Dessé, va procéder de la même manière, va profiter du passage des troupes françaises à Burgos en Espagne pour faire ouvrir le tombeau du Cid et en prélever un détail, j'oublie lequel. De la même manière, quelques feuilles du jardin où se trouve la tombe de Napoléon. Effectivement, le geste est un geste d'attachement, un peu fétichiste, un peu étonnant aussi, sympathique au bout du compte, et comme vous le disiez, qui est bien la preuve d'une volonté d'afficher des passions multiples pour un certain nombre de personnages.
Cheveux du général de Sey. Deux faces latérales du même objet sont remplies l'une par la signature autographe de Napoléon, l'autre contient un morceau ensanglanté de la chemise qu'il portait à l'époque de sa mort, une mèche de ses cheveux et une feuille de saule sous lequel il repose dans l'île de Sainte-Hélène.
Quand Denon me parlait de sa collection, je pensais toujours qu'une heure de sa conversation valait tout ce qu'il avait rassemblé. Mais quel est donc votre secret pour avoir tant de connaissances? Vous avez dû étudier beaucoup pendant votre jeunesse. À quoi Vivant me répond d'un air aisé. Tout au contraire, je n'ai jamais rien étudié parce que cela m'a toujours ennuyé. Mais j'ai beaucoup observé parce que cela m'amusait. Ceux qui en savent plus que moi me conseillent. Ce qui fait que ma vie a été remplie et que j'ai beaucoup joui.
C'était Une vie, une œuvre. Dominique Vivant de Nom, le mal connu, une émission de Paul Chavas, avec la participation de Marie-Anne Dupuis, commissaire de l'exposition Vivant de Nom au musée du Louvre en 1999, Pierre Lelièvre, historien d'art, Chantal Orgogozo, conservateur en chef au musée du Louvre, Martine Reed, professeur à la faculté des lettres de Versailles, Pierre Rosenberg, président-directeur du musée du Louvre, Philippe Solers, écrivain. Texte de Dominique Vivant de Nom, Lady Morgan, Elisabeth Vigée-Lebrun et des lettres inédites de Vivant de Nom, lues par Jean Bollery, Blandine Molinier, Maxime Paz. prise de son, Jean-Claude Aimé, Philippe Carminati, Pierre Garrigue, Étienne Leroy. Mixage, Marie-Dominique Bougot, Patrick Henry. Réalisation, Marie-France Alléon.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 16 avril 1998.